Radio Okapi.
À la présentation du journal, Jacques-Yves Molima.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal Parlé. En voici le titre. Certains candidats présidents de la République dénoncent ce qu'ils qualifient des attaques dirigées contre les candidats qui disent non à la machine à voter, mais le Front commun pour le Congo, FCC, appelle au calme et condamne toute provocation. Lutte contre l'épidémie Ebola, Leila Zerougui, la chef de la MONUSCO, félicite et rassure quant à l'appui de la MONUSCO pour freiner l'épidémie dans le Nord Kivu et en Ituri. L'invité de ce matin, Kabeya Kashama, c'est un expert en télécommunications, consultant et ancien de l'ISTA et de l'Université de Bordeaux. Il nous parlera de la coopération interuniversitaire entre ISTA et Université de Bordeaux, selon laquelle les finalistes de premier cycle pourront aller effectuer le Master 1 et 2 à Bordeaux. Voilà tout pour le salut. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Des candidats à l'élection présidentielle de décembre 2018, dont Théodore Ngoï, Martin Fayoulou, Seth Kikuni, Marie-Josée Ifokoum, Sylvain Maurice Macheke, Noël Tchani, Philbert Mabaya, Trifonki Kemulumba, Freddy Matungulu et Radja Bumbira dénoncent ce qu'ils qualifient des attaques dirigées contre les candidats qui disent non à la machine à voter. Dans une déclaration faite hier à Kinshasa, ce candidat condamne la violation du processus électoral qui, d'après eux, rendent ce processus irrégulier. Martin Fayoulou a lu cette déclaration à la presse. Je vous propose de l'écouter au micro de Paul Maténé.
Nous dénonçons des attaques dirigées contre les candidats ayant déclaré que la machine à voter doit être écartée parce qu'elle est illégale et interdite par la loi électorale. Madame Marie-Josée Ifokou, candidate présidente de la République, a été empêchée de se rendre à Brazzaville sans motif valable. Les candidats du président sortant érigent des barrières de fortune sur l'avenue des Orangers tous les jours. Et les candidats président de la République, Théodore Ngoï, a été empêché de se rendre chez lui par les gardes du candidat du pouvoir sortant. Un policier a braqué son arme sur lui pour l'obliger à suivre un autre chemin. Nous condamnons ces violations du processus électoral qui rendent ces processus irréguliers et appelons au respect des règles établies.
En réaction, le Front commun pour le Congo, la plateforme électorale qui soutient la candidature d'Emmanuel Chadari, appelle au calme et condamne toute provocation. S'agissant de la candidate Marie-Josée Ifokou, qui déclare avoir été empêchée de se rendre à Brazzaville, le FCC répond que si elle n'avait pas les papiers en ordre, elle ne doit pas s'estimer être au-dessus de la loi. Justin Bitakwira, ministre du Développement Rural et membre du comité stratégique du FCC, est joint par Pélé Kipelamondo.
Je voudrais d'abord appeler à l'apaisement et à éviter toutes sortes de provocations pour que nous allions dans les élections apaisées. Notre candidat Chadari habite effectivement l'avenue Orangée. Cette avenue a deux voies. Il y a une voie d'entrée et il y a une voie de sortie. Si un autre candidat habite la même avenue, je pense que c'est pas un voisin encombrant. Mais s'il habite une autre avenue et qu'il passe là-bas avec trompette devant la porte de notre candidat, ça c'est une provocation. Et cela doit absolument s'arrêter. J'ai suivi effectivement la candidate présidente de la République, comme tout le monde. Est-ce qu'elle avait tous ses documents en ordre? Parce qu'elle a dit qu'on lui a imposé une demande de sortie. Moi je pense que l'immigration doit faire correctement son travail. Si elle manquait une pièce et qu'elle dise parce que je suis candidat, moi je n'ai plus besoin de visa, elle doit subir la rigueur de la loi. Qu'on évite de chercher le pouls dans la calvitie des gens. Nous n'avons pas un candidat qui est en train de provoquer les gens. J'appelle encore une fois au calme et allons aux élections dans un climat apaisé le 23 décembre 2018.
Nous l'avons dit au sommaire, la chef de la MONUSCO félicite toutes les équipes engagées dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Leila Zerougui rassure également les populations des Bénins, notamment quant à l'implication de la MONUSCO dans l'éradication de cette maladie qui, selon elle, freine des efforts de pacification dans cette contrée. Elle s'est ainsi exprimée hier jeudi à l'aéroport de Beni, juste avant de quitter la ville où elle a effectué une visite de travail. Ses propos ont été recueillis par Sekombi Katondolo.
Nous travaillons parce que nous n'avons pas le droit de décevoir les populations de Béni. Nous n'avons pas le droit de ne pas faire le maximum quand on sait que la souffrance, elle est dure. Je sais que parfois la population exprime sa colère, mais c'est parce qu'elle veut qu'on fasse plus. C'est parce qu'elle sait que peut-être on est le seul à pouvoir faire quelque chose avec les FRDC, nos militaires, les équipes humanitaires, le gouvernement. Et donc, ils sont un peu durs parfois avec nous. Mais je le comprends. Mais je leur dis aujourd'hui, si vous voulez que les gens fassent plus, il faut aussi les encourager. Quand ils font quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Quand ils font quelque chose qu'il faut corriger, il faut le corriger. Nous sommes ensemble, nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est un pari que nous devons gagner ensemble.
Lutte contre la filariose, l'infantique ou l'infantiasis. Le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées démarre le lundi 22 octobre prochain avec les interventions chirurgicales gratuites. Ces opérations qui concernent les zones de santé de Mwanda Boma, Matadi, Tchila et Mbanzangungu ciblent une centaine de malades déjà identifiés. On écoute les explications du docteur Daniel Muteba, point focal de la filariose au ministère de la Santé, au micro de Mimi Ngumba Mlongo.
Pour le compte du programme au niveau du pays, pour qu'on arrive à éliminer la filariose lymphatique, la première stratégie, c'est que nous faisons la distribution des masses de médicaments à toutes les communautés qui sont endémiques. Mais au-delà de du traitement médical, il y a un deuxième volet qui est la prise en charge des morbidités. Et parmi ces morbidités, nous avons l'éléphantiasis et l'hydrocèle qui est causée par la filariose lymphatique. Donc nous avons choisi, dans un premier temps, là où nous avions déjà des données, et nous avons estimé que nous allons commencer cette campagne gratuite de la chirurgie des hydrocèles au niveau de la province du Congo central. C'est vraiment une campagne gratuite, c'est une opportunité pour des gens qui ont ces problèmes, qui pratiquement les handicapent à travailler, d'adhérer à cette campagne pour qu'ils puissent être soulagés et voir leur vie améliorée. Et nous avons déjà au niveau de la province et même au niveau du pays des experts en chirurgie que nous avons identifiés, qui sont déjà imprégnés avec la stratégie de l'OMS pour arriver à soulager toute cette population qui est en train de souffrir de tous ces handicaps-là.
Le docteur Daniel Muteba ajoute qu'il s'agit d'une vaste campagne qui s'étendra dans d'autres provinces du pays, dont la Tchopo. Et pour le Congo central, les interventions prendront fin le 3 novembre prochain. Justice à présent, procès du meurtre des experts de l'ONU, mis en cause par le prévenu Boulaboula lors de l'audience de jeudi passé. Le colonel Mambweni et le journaliste Raphaël Kamouzadi ont répondu hier jeudi au tribunal militaire de Kananga. Les deux ont tenu à avoir parlé au téléphone avec Vincent Manga au sujet d'un approvisionnement en munitions ou en machettes. Joël Bofengo, vous suivez pour nous ce procès.
C'était la révélation majeure de l'audience du 11 octobre dernier. Le prévenu Boulaboula affirme avoir entendu Vincent Manga, qui est poursuivi comme lui pour le meurtre des experts de l'ONU, demander au téléphone des cartouches au colonel Mambweni et des machettes à Raphaël Kamouzadi quelques jours avant l'exécution des Aïda Catalane et Michael Sharp. Les deux personnes mises en cause ont rejeté ces accusations. « C'est du nouveau pour moi, je n'en sais rien du tout », répond le colonel Mambweni. Interrogé par le ministère public sur ses rapports avec les miliciens pendant qu'il était en service au Kasaï, l'officier de l'armée nie tout contact particulier avec les miliciens, rejetant avoir remis des munitions à la milice. Alors que Jean Bosco Mukanda dit avoir souvent parlé au téléphone avec lui pour lui transmettre des informations, le colonel Mambweni ne semble pas s'en souvenir précisément, affirmant par exemple n'avoir reçu le SMS de M. Mukanda sur l'exécution des experts que plusieurs jours après parce que son téléphone était éteint le jour du meurtre. Le ministère public promet alors de revenir sur les appels téléphoniques entre Mukanda et le colonel Mambweni. Le général Mukunto dit avoir relevé 64 communications téléphoniques entre l'officier de l'armée et le témoin. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Parlons éducation à présent. La reprise des cours a bel et bien eu lieu dans plusieurs instituts et universités de la capitale après le lancement officiel le 15 octobre dernier. C'est le cas à l'Institut pédagogique de la Gombe où les enseignements se donnent sans désemparer. Le point avec Hortense Kavou et Marco Moulumba.
C'est l'ambiance jeudi à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Le comité de gestion et les corps académiques s'étaient donné rendez-vous dans la salle de promotion pour une cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants. Ici, les cours ont repris normalement, comme le confirme Naomi, une nouvelle étudiante au sein de cet institut.
Aujourd'hui, c'est le quatrième jour depuis qu'on a commencé à rentrer. Et là, on a tout fait. Les TP aussi sont déjà commencés. Les professeurs sont là presque chaque jour. Et aujourd'hui, ils ont organisé une cérémonie aujourd'hui pour nous accueillir. Nous sommes vraiment contents d'être dans l'Institut pédagogique de la Gombe.
À l'Institut supérieur de commerce, tout comme à l'Académie des Beaux-Arts, les autorités académiques s'attellent de leur côté à régler les derniers problèmes liés aux arriérés académiques. Précision avec le directeur administratif de l'Académie des Beaux-Arts, Jean-Pierre Ndoua.
Là, nous sommes au deuxième concours d'admission pour les classes de recrutement. À ce qui concerne les classes montantes, il y a les délibérations qui ont pris fin. Alors, les étudiants sont en plein recours. Quoique normalement, nous pouvons bien démarrer les cours à partir, n'est-ce pas, de la semaine prochaine.
Rappelons qu'à l'Université pédagogique nationale, la rentrée a eu lieu certes le 15 octobre, mais dans une ambiance de grève des professeurs qui avaient séché ce jour-là la cérémonie officielle d'ouverture de cette année académique.
L'invité. Coopération interuniversitaire entre l'Institut des techniques appliquées et l'Université libre de Bordeaux en France. Désormais, des étudiants finalistes de premier cycle de l'ISTA pourront aller effectuer les masters 1 et 2 dans l'une des 8 écoles techniques de l'Université de Bordeaux. C'est ce qu'annonce Kaveh Kachama, un expert en télécommunications, consultant et ancien de l'ISTA et de l'Université de Bordeaux qui a négocié cette coopération. Il a invité de Radio Capi ce matin. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Monsieur Kaveh Kachama, bonjour.
Bonjour Monsieur Kifinda.
Vous êtes porteur d'un projet de coopération interuniversitaire entre la France et la République démocratique du Congo. En quoi consiste ce projet?
Ma démarche était par souci de rehausser le niveau de formation de l'ISTA, étant moi-même un ancien de l'ISTA et ayant terminé mon troisième cycle dans une des écoles du campus de Bordeaux. J'avais négocié à la fin de mes recherches une coopération entre une des écoles, parce qu'à l'époque je dépendais de l'École nationale de radioélectricité de Bordeaux, avec la section électronique de l'ISTA pour l'option télécom. Donc on a élargi l'accord après la réforme des différentes écoles de la région aquitaine qui se sont regroupées au sein de l'Institut national polytechnique. Donc il y a 8 écoles d'ingénieurs regroupées au sein de l'UNP. Donc il y a 2 volets de l'accord, il y a le volet pédagogique et le volet scientifique.
Donc en ce qui concerne le volet pédagogique notamment, les étudiants peuvent quitter la RDC pour étudier à Bordeaux.
Tout à fait. Là, actuellement, au niveau de l'ISTA, il y a un recrutement, un dépôt de dossier pour le concours qui va se dérouler ce vendredi. C'est exclusivement réservé aux étudiants de l'ISTA. Les étudiants qui ont terminé le premier cycle vont partir à Bordeaux dans une des écoles pour faire le Master 1 et Master 2. C'est dans cette démarche de double diplôme, un diplôme de l'ISTA et un diplôme dans une des écoles de l'INP.
Alors, dans le cadre de la recherche scientifique, est-ce que votre coopération prévoit aussi autre chose?
Oui, il y a le volet recherche scientifique. Il y aura l'échange entre les chercheurs de l'ISTA et les chercheurs des écoles membres de l'UNP.
Donc, pour bien comprendre, il y a des enseignants qui vont sortir de la France pour venir donner cours ici à l'ISTA.
Tout à fait. Donc, il y a un projet d'échange que les enseignants des écoles de l'UNP viennent à l'ISTA suivant les options, organiser certains cours et les professeurs de l'ISTA pourront aller pour des stages de renforcement de capacité.
Toute cette coopération va exiger des moyens, notamment pour des étudiants qui viennent du Congo. Qui va financer toute cette coopération?
Vous savez, la France fonctionne aujourd'hui par la décentralisation, donc les régions sont décentralisées et les régions ont mis en place les coopérations décentralisées. Dans le cadre de ce projet, la région Aquitaine offre une mobilité financière en tranche de 6 000 euros l'an aux étudiants qui seront retenus. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec le comité de gestion de l'ISTA, nous avions rencontré le ministre de l'enseignement supérieur, Monsieur Steve Mbikai, qui nous a agréablement reçu et qui a bien accepté la démarche entreprise. Donc, la démarche, c'était pour solliciter l'implication du gouvernement pour qu'il y ait un complément financier à ces étudiants de façon à ce qu'ils puissent se concentrer réellement aux études et ne pas chercher à faire de petits jobs. Donc, le souci, c'est que la première promotion puisse donner les meilleurs résultats pour pérenniser cet accord.
Est-ce qu'il y a une possibilité d'étendre cette coopération à toutes les autres universités de la République démocratique du Congo au lieu de se limiter à l'ISTA seulement?
C'était la préoccupation du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a posé cette question-là parce que c'est une coopération qui a été négociée entre établissements. Donc, pour lui, il considérait que c'est une coopération privée, bien que l'ISTA, c'est un établissement public. La démarche, c'est de trouver qu'il y ait une invitation de la part du ministère de l'Éducation nationale français au ministre de l'enseignement supérieur pour élargir la coopération parce que parmi les 8 écoles de l'UNP, il y a une école qui fait le bâtiment et ponts et chaussées, qui peut intéresser l'IBTP par exemple. Donc il y a ces soucis-là du ministre de l'Enseignement qui souhaiterait que la coopération ne se limite pas seulement au niveau de l'ISTA, que ce soit élargi dans le cadre de son approche de trouver les partenaires universitaires à l'extérieur. Monsieur Kabéan Kachama, je vous remercie.
7h15 à Kinshasa, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.